Radio Kapi.
D'abord les titres. La 11e conférence des gouverneurs des provinces débute cet après-midi à Kalemi dans la province du Tanganyika. Cette session de 3 jours sera présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Elle porte sur les thèmes « Renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoire ». Les femmes victimes des violences sexuelles demandent plus de protection et sécurité pour exercer leurs activités quotidiennes. Les femmes de la province du Nord Kivu se sont exprimées ce mardi 26 novembre au cours des activités de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Nous recevons comme invité François Sobo. Il est coordonnateur de la section d'appui à la justice à la MONUSCO Goma. Il parle de la formation qui se tient depuis lundi à Goma en faveur des experts de la police technique et scientifique, des inspecteurs de la police judiciaire et des magistrats du parquet et du siège du Nord Kivu. Bonjour à toutes et à tous. La 11e conférence des gouverneurs des provinces débute cet après-midi à Kalemi dans la province du Tanganyika. Cette session de 3 jours sera présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Thème choisi, renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoire. La première ministre Judith Suminwa séjourne ce mercredi à Kalemi dans la province du Tanganyika après son retour des Rabat où elle a échangé avec son homologue marocain Aziz Akanouch. Selon des sources de la primature, ces deux personnalités y ont lancé plusieurs initiatives pour promouvoir les échanges commerciaux et les investissements mutuels entre la RDC et le Maroc. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Au cours de ces échanges, ces deux chefs du gouvernement ont passé en revue les perspectives prometteuses du partenariat économique bilatéral entre leurs pays respectifs. C'est là, à travers les renforcements de la concertation pour la tenue de la prochaine session de la commission mixte et de la dynamisation du conseil d'affaires maroco-congolais. Les discussions entre ces deux personnalités ont mis en lumière les opportunités offertes par une collaboration renforcée, notamment dans les domaines des investissements, du commerce et de l'industrialisation. La RDC, riche de ses ressources naturelles, et le Maroc, fort de son expertise économique et industrielle, attendent conjuguer leurs atouts pour construire une économie résiliente et interconnectée. Les échanges entre Judith Suminwa et Aziz Akanouch ont également porté sur des projets spécifiques visant à exploiter les complémentarités entre les deux nations. Ensemble, la RDC et le Maroc attendent par ailleurs prouver que la coopération Sud-Sud n'est pas une utopie, mais une réalité porteuse de transformations concrètes pour leur population et pour tous les continents.
Je le disais au sommaire, les femmes victimes des violences sexuelles demandent plus de protection et sécurité pour exercer leurs activités quotidiennes. Ces femmes de la province du Nord Kivu se sont exprimées ce mardi 26 novembre au cours des activités de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Explication avec Emmanuel Elamenjoa Kabedi.
Les femmes de la province du Nord Kivu évoquent des cas de traumatismes subis comme conséquence des conflits armés, c'est des exécutions arbitraires, des tortures, des violences sexuelles, des mariages forcés et autres. Une survivante de violences sexuelles au Nord Kivu témoigne.
Au Nord Kivu, nous vivons grâce au café et cacao. Mais dans nos champs-là, il y a les ADF. Ils vous imposent de coucher avec eux. Vous n'avez pas de choix, pas d'endroit pour échapper. Vous êtes obligé de céder pour enfin amener les cafés et cacao pour la survie. Moi, personnellement, on m'avait gardé pendant 3 semaines en train de violer chaque jour. Ils couchent avec les femmes sauvagement, donc des la même façon qu'ils tuent les gens sauvagement.
Pour plus de protection et de sécurité, ces femmes demandent aux autorités du pays la relève des troupes militaires qui ont trop duré dans cette zone.
Pour mettre fin à cette situation en Nord Kivu, c'est depuis longtemps qu'on sollicitait qu'on change. Les unités, c'est tous les militaires qui sont là. On change vraiment totalement. Le militaire de FARDC, surtout ceux qui sont à Kassindjoubeni, et on puisse lutter ensemble contre l'impunité.
Signalons que la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes vise la lutte contre l'impunité et l'accompagnement des femmes et filles en situation de violence.
Au Nord Kivu, la coalition des armées congolaises et ougandaises annonce avoir arrêté mardi dernier deux femmes identifiées comme épouses des deux chefs rebelles des EDF. C'était dans la localité de Beou, Manyama, dans le territoire de Beni. Selon les porte-paroles des opérations militaires Sokola 1 pour le Grand Nord Kivu, ces deux femmes des nationalités burundaises auraient été recrutées à Bujumbura. Elles ont été arrêtées avec leurs enfants pendant qu'elles étaient à la recherche des vivres. Le colonel Mac Azukai appelle la population de la zone à rester proche des positions militaires pour garantir sa sécurité. Nord Kivu toujours, la persistance des conflits armés accentue la faim et l'insécurité alimentaire, surtout pour les populations déplacées des guerres. Les Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, FAO, qui fait ces constats, plaide pour la cessation des hostilités et les retours de la paix, mais aussi l'ouverture des axes de desserte agricole comme un préalable pour améliorer la situation. Environ 25 millions de personnes sont confrontées à la famine en RDC, parmi lesquelles 3 millions en situation d'urgence dans les sites des personnes déplacées au Nord Kivu, fait savoir la FAO. Sifa Maguru nous en dit plus.
D'après la directrice générale adjointe de cette organisation, il s'observe un niveau extrême d'insuffisance alimentaire et de malnutrition chez les femmes et les enfants. Pour y faire face, Madame Bechdel évoque une solution à deux niveaux. C'est notamment d'apporter de l'aide d'urgence aux déplacés qui luttent pour la survie, mais aussi donner à la population plus de semences et de petits bétails pour leur permettre de se relever. Ensuite, il faut penser à développer une agriculture économique et durable, explique-t-elle.
Mais les défis que je vois concernent l'accessibilité à la terre et comment la terre est utilisée. Il y a aussi le fait que l'agriculture dépend aussi des infrastructures. Il faut améliorer les choses de manière à ce que ce qui est produit sur le plan agricole puisse être accessible sur les marchés.
Pour sa part, le coordonnateur par intérim en charge des questions agricoles au cabinet du gouverneur, Bembeleza Kiza, insiste, lui, sur les plaidoyers de la FAO au niveau international pour les retours de la paix.
Et pour accéder à la terre, c'est, n'est-ce pas, restaurer la paix, qui est un facteur primordial. Une fois la population est stable, il y a lieu de lui doter de tous les intrants.
Famagoro, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, les villages Ngenengene, abandonnés il y a environ une année suite aux tueries et violences liées au conflit intercommunautaire Mbolelengola, est totalement détruit. Selon la société civile Sauti ya Lubunga, qui revient de cette entité, ce week-end, la forêt a repris son droit de cité. Autrefois, centre commercial et grenier de Lubunga, ce village est devenu quasiment fantôme. Il ne reste plus que des ossements humains ainsi que des ruines des maisons incendiées. Si du côté d'Opela, la circulation des personnes a repris normalement, par contre, du côté d'Ubundu, la psychose continue à gagner les habitants de ces villages et même les voyageurs. Prince héritier Isomé, la présidente de cette structure citoyenne, plaide pour le retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Ses propos ont été recueillis par Jacques Mukonkole.
Du côté Ubundu, il y a un problème. La circulation n'est pas encore reprise, surtout sur l'axe Ngenengene. Vraiment, là-bas, il y a un calme total. Les gens en sont toujours dans de fuites. Nous avons trouvé des ossements, quelques corps pourris dans les coins et recoins du village. Puis nous avons trouvé seulement quelques compatriotes au niveau du village Otobio, là où se trouve le centre hospitalier. Mais les gens ne sont plus dans du village. La majorité des gens sont toujours dans le site de déplacés au centre de Lubunga et aussi au niveau de la rive droite. Et ce que nous allons demander seulement aux autorités de s'impliquer pour que la paix revienne. Et pour que cela arrive, il nous faut la table ronde, comme l'a également souligné le président de la République, parce que c'était ça l'initiative de Sauti ya Lubunga. Et nous demandons également que les autorités puissent nous chercher la solution par rapport à la situation de la société Cap Congo, le contrat qui a été signé, et aussi des administrations au parallèle entre la commune de Lubunga et le secteur de Lubuyabine.
Procès de Jacqueline Dalla et l'influenceuse Denise Dussochois, le conseil de l'opposant politique Jacqueline Dalla s'est dit inquiet. Il accuse l'État congolais de vouloir banaliser les viols présumés de son client en protégeant des brebis galeuses de ses services. Accusé de propagation des faux bruits, son client a comparu hier mardi devant le tribunal de paix de Kinkolé dans l'affaire des sodomies qu'il oppose à l'influenceuse. Maître Eric Bisselo a été joint par Jeff Ngoy.
Et nous avons remarqué que dans le dossier des ministères publics, il n'y a rien. Il y a des natures à dire que ce que Jacqueline Dalla a dit était des faux bruits. Mais ils prennent des dépositions faites par M. Jacqueline Dalla pour sa plainte. Ils prennent des interviews que M. Jacqueline Dalla a fait pour sa plainte et pour expliquer au public ce qui est arrivé, pour dire que c'est du faux bruit. Nous avons compris que c'est purement une manipulation, une fois encore politique, puisque quand on s'attaque à l'ANR et à la République, même si on a raison, même si ce qui est arrivé est infâme, au lieu que la République, par sa grandeur, face à ce qui est arrivé à l'un des siens, à l'un de ses enfants, protège les autres, c'est-à-dire qu'il cherche des brebis galeuses dans les services et les sanctionne sévèrement. Non, on préfère sanctionner celui qui révèle une infamie. Et en plus, cela nous fait peur parce que si le viol est considéré comme étant une vulgarité, une banalité dont il ne faut pas dénoncer, dont il ne faut pas porter plainte parce que vous risquez d'être poursuivi pour faux bruit, ben nous sommes un peu inquiets.
Sachez que cette affaire de sodomie a été éclatée en deux procès séparés. Le premier est celui où Denise Dussochois est poursuivie par le ministère public devant le tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema pour faux bruit et dont l'audience des plaidoiries de toutes les deux parties est prévue aujourd'hui. Dans ce premier dossier, Jacqueline Dalla est partie civile pour injures et imputations dommageables qu'il aurait subies. Le second est celui où les ministères publics et la République poursuivent Jacqueline Dalla pour faux bruit également, mais cette fois-ci, devant le tribunal de paix de Kinshasa, Kinkolé. Et ici, l'audience s'est poursuivie hier. Deux agents publics arrêtés et emprisonnés pour détournement des fonds au territoire de Fechi, dans la province du Kwango. Il s'agit de chefs des services de l'environnement et des infrastructures et travaux publics. D'après le ministre provincial de la justice du Kwango qui livre l'information, ces cadres ont perçu plus d'un million de francs congolais depuis plusieurs mois dans les salaires des agents fictifs. Timothée Nzundu parle également de la vente des matricules à d'autres personnes. Des détails avec Irène Mbomaluzolo.
Fabrication de fausses procurations dans le but de retirer les salaires des agents fictifs et vente des numéros matricules à des personnes non attitrées. Telles sont les infractions mises à charge de ces deux cadres de la fonction publique de la province du Kwango. Tous deux sont jetés en prison à Fechi, chef-lieu du territoire portant le même nom. C'est le ministre provincial de la justice du Kwango qui livre l'information. Timothée Nzundu.
Les chefs de service ont des fausses procurations, des faux agents qui leur retirent l'argent. Un chef de service, là, chaque mois, obtient au moins 1 600 francs congolais pour des agents qui ne sont pas bien connus dans les services, avec des fausses procurations. Et ces enquêtes ont été faites depuis très longtemps. Nous avons vérifié. En pleine paye, on a compris que les chefs de service continuaient à détourner les fonds. Donc, si on doit prendre 1 600 ou 1 200 francs, tant de mois, il a détourné beaucoup d'argent. L'autre, dans son service, ils sont 25 matriculés payés, mais ils ne payent que 9. Alors, les autres matricules sont vendus aux agents qui ne sont même pas de service.
Le ministre en charge de la justice du Kwango précise que c'est l'administrateur du territoire qui lui avait parlé de la situation, ce qui l'a poussé à diligenter les enquêtes. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Processus électoral à Massimanimba. La CENI vient de détecter ce mardi deux personnes fraudeurs à la formation des agents électoraux temporaires en cours dans ces coins du Kwilu. Il s'agit d'une femme et un homme qui ont voulu participer sans droit à cette formation pour des objectifs inconnus. Les rapporteurs adjoints de la CENI les a identifiés lors du contrôle physique des participants. Ils précisent que plusieurs autres infiltrés ont été retournés. Paul Moindo annonce des poursuites judiciaires à toute personne qui sera arrêtée dans ces conditions. Sport dans cette édition d'information. La 26e édition Cannes Handball Senior Dame a débuté ce mercredi 27 novembre à Kinshasa. En attendant, la cérémonie officielle prévue à 18h. Les matchs de la première journée se jouent déjà depuis 8h ce matin. Vanessa Kongolo est sur place au gymnase jumelé du stade des Martyrs. Vanessa, quelle est l'ambiance sur place?
Patience sur place ici au gymnase jumelé du stade de Martyrs. l'ambiance, un bon enfant où on joue la 12e minute du match qui oppose la Guinée au Cameroun. C'est le troisième match de la journée et donc pour ce match, c'est la Guinée qui est en train de mener par les scores de 7 contre 5.
Voilà Vanessa, y a-t-il autre détail que tu peux nous ajouter?
Justement, patience Ngalula, il faut dire hein, que cette 26e journée a débuté avec le premier match qui a opposé le Sénégal au Kenya. Pour ce premier match, c'est les Lions de la Teranga du Sénégal qui se sont imposés largement sur le score de 39 à 9. Et le deuxième match a vu l'Algérie s'imposer devant les Cap-Verts par le score de 20 à 26. Et donc, cette journée sera longue. Hein, parce que la cérémonie d'ouverture de cette 26e handball senior dame est prévue à 18h, juste heure de Kinshasa, en attendant justement les derniers matchs de cette journée qui va opposer la RDC à l'Ouganda.
Merci beaucoup Vanessa.
Actualité internationale.
La diplomatie irakienne a salué mercredi le 27 novembre la trêve instaurée au Liban après 2 mois de guerre ouverte entre l'armée israélienne et les Hezbollah, appelant à multiplier les efforts internationaux pour éviter toute nouvelle escalade sur ces fronts. Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères irakien appelle également la communauté internationale à prendre des mesures sérieuses et urgentes pour stopper les massacres et les attaques contre les Palestiniens à Gaza.
L'invité.
Nous recevons comme invité François Sobo. Il est coordonnateur de la section d'appui à la justice à la MONUSCO Goma. Il parle de la formation qui se tient depuis lundi à Goma en faveur des experts de la police technique et scientifique, des inspecteurs de la police judiciaire et des magistrats du parquet et du siège du Nord Kivu. La formation qui bénéficie de l'appui de la MONUSCO et du PNUD porte sur l'expertise balistique dans le cadre d'un procès pénal. François Sobo s'entretient à ce sujet avec Chris Moukand.
Monsieur François, la MONUSCO organise une formation en faveur du personnel judiciaire militaire. C'est quoi l'importance d'une telle formation?
Vous savez, nous sommes dans une région ou dans une province qui est dominée par un certain regain des activités criminelles depuis un certain moment. Dans la province et plus précisément dans la ville de Goma, il ne se passe pas un jour où nous n'apprenons pas que voilà, il y a quelqu'un qui est tué par arme. En matière pénale, la preuve est déterminante. On ne peut pas condamner quelqu'un sans avoir la preuve, au-delà de doute raisonnable, de sa culpabilité. Et le juge pénal est amené à recourir à des formes de preuves, et dans la mesure où, de temps en temps, il n'a pas les moyens d'apprécier les circonstances de la commission des faits, il fait recours à ce qu'on appelle des experts. Et notamment, il fait recours à des experts en balistique, dont l'important, c'est que voilà, on tue quelqu'un, il va falloir déterminer les circonstances dans lesquelles cette personne a été tuée, avec quelle arme, quels sont les auteurs possibles, et ensuite rassembler les éléments pour pouvoir déterminer le ou les auteurs et savoir qui est coupable afin de pouvoir donner une issue au procès.
Vous avez parlé du contexte, mais est-ce que sur le plan de la connaissance, nos acteurs de la justice avaient quand même un gap qu'il fallait combler?
Cette formation devait être faite depuis 2 ans parce qu'elle a été demandée par le premier président de la Cour militaire. C'est un besoin ressenti. Au moins 4 fois, la MONUSCO est intervenue depuis 2022. Nous avons pu aider la justice militaire à collecter et à analyser des éléments balistiques dans le cadre des procès. Nos experts en balistique et en armement ont constaté qu'il y a besoin de renforcer un certain nombre de capacités pour que la police technique et scientifique ait les moyens, je veux dire en termes de compétences techniques, pour pouvoir réaliser cette expertise sans forcément avoir recours à la MONUSCO.
Plus ou moins 1 semaine de formation, donc la matière doit être abondante.
Quand nous parlons de balistique, il y a la façon générale la balistique, mais la balistique judiciaire qui a rapport avec la matière pénale. C'est très vaste parce qu'on ne va pas seulement parler de la balistique en général, mais également son rôle dans la détermination des auteurs et de leur culpabilité. Donc ça fait intervenir à la fois les techniciens, la police technique, également les magistrats du parquet et du siège. Et je vois que les apprenants sont très intéressés parce qu'il y a un certain nombre de choses, l'utilisation des armes, la façon dont on peut déterminer qui a tiré, sur quel angle, tout cela, ça, c'est très intéressant.
À la fin de cette formation, à quoi vous vous attendez?
Vous savez, aujourd'hui, la justice à l'est du Congo, c'est très capital. Il y a un besoin en termes de demande de justice. Donc, nous espérons que les apprenants, qui sont déjà des professionnels, puissent encore renforcer suffisamment leurs compétences pour exercer mieux. Parce que la population a besoin qu'on réponde à ce besoin de justice, que les auteurs de ces crimes-là puissent réellement être appréhendés parce qu'on aura trouvé les éléments de preuve les concernant, pouvoir les identifier afin de leur imputer des responsabilités individuelles.
L'appui au secteur de la justice se limite juste au niveau de la formation ou
Nous aidons tant la justice militaire que la justice civile. Ne serait-ce que ces derniers jours, nous aidons à tenir des audiences foraines. Le tribunal militaire de garnison a terminé des audiences qu'ils ont tenues pendant 3 semaines pour pouvoir aider à désengorger la prison. Vous savez, le nombre actuel des détenus à la prison, c'est au-delà de 4 500. Et dont un grand nombre, je dirais 80%, sont des personnes prévenues qui ne sont pas jugées. Donc on ne peut pas rester sans rien faire. Et dans le cadre du programme conjoint des Nations Unies d'appui à la justice que nous mettons en œuvre avec le PNUD, nous intervenons pour pouvoir soutenir les magistrats, soutenir la justice à juger autant que se peut. Nous appuyons également à mener des enquêtes, tant dans les crimes ordinaires que dans les crimes de droit international comme le génocide, crimes de guerre, etc. Si je reviens à la matière de la formation, la MONUSCO appuie la construction d'une salle de formation pour la justice militaire qui est presque terminée. Et je crois que d'ici la fin de ce mois de décembre, ce bâtiment pourra être donné. C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui nous le demande, d'appuyer le système judiciaire congolais afin qu'il puisse avoir les capacités nécessaires pour appréhender, juger et condamner, s'il le faut, les personnes auteurs présumées de crimes ordinaires ou des crimes de droit international.
Monsieur le coordonnateur, merci que vous ayez accepté de répondre à nos questions.
Merci à vous.
Et c'est la fin de ce journal présenté par Patience Ngalou Lambombo. Billy Landry Betou a assuré sa mise en onde sous la supervision et coordination de Martin Sebujangwe et Élisée Tchiko Tachivuita. Merci à vous de l'avoir suivi.